Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Donc Marc 10, versets 32 à 45. Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Un second texte dans Daniel 7, versets 9 à 14. « Je regardais. Pendant que l'on plaçait des trônes, l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. »
Si Jésus demandait ce matin « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?»« Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Eh bien, je lui demanderais de nous donner un cœur réceptif à sa parole, et que son esprit œuvre dans nos vies pour que nous vivions comme il le désire. Voilà ce que j'aimerais lui demander ce matin. Que son esprit agisse dans nos cœurs, que nous comprenions sa parole et que nous vivions selon sa volonté. Nous lisons ensemble le journal de Pierre, qui a été écrit par Marc, qui nous parle donc de ce que Jésus a vécu. Donc Jésus a voyagé pendant 3 ans, il se dirige vers Jérusalem, et dans très peu de temps, nous allons entrer dans la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est juste avant. Mais avant de nous plonger dans le journal de Pierre écrit par Marc, ce matin, j'aimerais prendre quelques instants avec vous pour réfléchir à l'expression « fils de l'homme ». Une expression que nous trouvons souvent dans la bouche de Jésus. Et c'est clairement le titre préféré que Jésus utilise lorsqu'il parle de lui-même. Or, il est vrai qu'il reconnaît être le Fils de Dieu lors de son jugement et laisse comprendre qu'il l'est lorsqu'il parle de son Père. C'est vrai. Mais ce n'est pas un titre qu'il utilise pour lui-même. Jésus reconnaît aussi être, là je vais parler en grec, hébreu et français, le Christ, Messie ou un. Il le reconnaît devant la Samaritaine, par exemple, en Jean 4. Je sais que le Messie viendra, je le suis, celui qui te parle. Hein, vous vous souvenez? Devant ses disciples aussi, il le reconnaît, mais il ne l'utilise pas pour se désigner lui-même. Jésus n'utilise pas non plus l'expression « fils de David » directement. Il l'accepte comme étant vrai, mais on ne l'entend pas de sa bouche pour dire « je suis le fils de David ». Par contre, l'expression « fils de l'homme » revient à des quantités de reprises sur ses lèvres. Et j'ai trouvé 86 passages dans les évangiles avec cette expression dans sa bouche. Alors pour ceux qui veulent vérifier ou s'imprégner simplement de tout ce qui accompagne cette expression, eh bien vous trouverez dans les petits documents au dos les 86 citations avec les chaque fois un petit élément qui vous décrit de quoi il est question dans le passage. Vous pouvez regarder dans les papiers que vous avez pris ou bien en prendre un à la sortie tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, cette expression du Fils de l'homme était utilisée de deux manières. La première, c'était pour se référer à un être humain. Pour se référer à un être humain, particulièrement dans le livre d'Ézéchiel, où l'expression « fils d'homme » identifie Ézéchiel à plus de 90 reprises. En fait, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu n'appelle jamais Ézéchiel par son prénom. Il l'appelle toujours en disant « fils d'homme ». Vous trouverez deux fois Ézéchiel dans le livre, mais c'est quand Dieu dit à Ézéchiel de dire quelque chose de lui aux autres. Mais à lui, il ne s'adressera jamais avec son prénom, toujours en lui parlant de fils d'homme, pour lui faire comprendre et nous faire comprendre sa situation de créature devant le Créateur. Cette expression fils d'homme, nous la trouvons aussi dans Job et dans les psaumes, qui se réfèrent justement aussi à l'être humain. Hein, donc la première façon d'utiliser cette expression dans l'Ancien Testament, c'est se référer à l'être humain. Et la deuxième, c'est pour se référer à un être semblable à un homme à qui Dieu donne la royauté éternelle. Un être semblable à un homme à qui Dieu donne la royauté éternelle, selon Daniel 7, 13, que nous avons entendu tout à l'heure. Je vais juste vous relire les deux versets qui nous remettent en tête cette notion. Donc Daniel 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Voilà donc la deuxième façon d'utiliser l'expression « fils de l'homme ». Or, quand Jésus utilisait l'expression « fils d'homme », il pouvait faire référence aux deux manières d'utiliser cette expression dans l'Ancien Testament. Il ne dit pas forcément à laquelle il fait référence chaque fois, mais il peut utiliser pour les deux, en fait, manières qui sont utilisées dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ses auditeurs sont parfois troublés. Voilà pourquoi ils sont parfois troublés. Et les disciples qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie s'accrochaient plutôt à la référence de Daniel 7. Hein? C'est le Messie, c'est lui qui recevra toutes les dominations, qui a la royauté éternelle. Mais alors, ils ne comprenaient pas bien ou pas du tout le lien avec la souffrance que Jésus liait avec l'expression « fils de l'homme ». Puisqu'il dominera toujours sur tout. Et Jésus ne dément pas cela. Et deux textes après même la mort de Jésus, après sa mort et sa résurrection, attestent cela. Vous souvenez peut-être d'Étienne. Étienne va utiliser cette expression lorsqu'il est face à ses juges qui veulent sa mort d'une manière injuste. Il dira dans Actes 7, 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. » En fait, c'est un rappel de ce que Jésus avait dit lors de son procès à ces mêmes juges qui voulaient sa mort également de manière injuste. Jésus avait dit ceci, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant en venant avec les nuées des cieux. » Donc un premier texte après donc la mort et résurrection de Jésus avec Étienne atteste que cette expression correspond à Jésus-Christ dans sa gloire. Le deuxième, c'est Jean qui nous le rapporte. Il a vu le Fils de l'homme. Au début d'Apocalypse, nous le voyons. Apocalypse 1, les versets 12 à 16. Vous pouvez regarder avec moi, en gardant le petit doigt dans Marc 10, puisque nous y reviendrons. Mais on peut lire là Apocalypse 1, les versets 12 à 16. Apocalypse 1, 12. « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Donc il vit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Tout ceci nous permet de comprendre que pour Jésus, la notion de la royauté promise et la domination du fils de l'homme indiquée dans le prophète Daniel est une réalité. C'est une réalité. Le problème, c'est que les disciples qui connaissent le texte de Daniel pensaient que le fils de l'homme régnerait à Jérusalem, en ayant détruit la domination romaine et en établissant son royaume terrestre. Jésus, d'ailleurs, tout au long de son ministère, va utiliser cette expression « fils de l'homme » pour aider à comprendre qu'il a tout pouvoir. Par exemple, il peut pardonner les péchés. Dans Marc 2, 10, il est maître du sabbat. Dans Marc 2, 28, il viendra de façon visible sur les nuées. Dans Marc 13, 26, et même, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les chefs religieux le verront assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel, Marc 14, 62. Cela, les disciples aimaient l'entendre et s'en réjouissaient. Mais Jésus, tout au long de son ministère, va lier cette expression « fils de l'homme » avec sa souffrance, son rejet, sa mort. Oui, il est le maître, il est celui que Daniel a vu. Mais le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. En fait, il vient d'abord gagner la guerre contre le péché et il viendra ensuite établir son royaume lors de son retour et il régnera éternellement. Et en attendant, nous sommes en fait dans le même temps que les disciples, un temps où nous prolongeons la mission du Fils de l'homme, si vous voulez, hein, souffrant, cherchant à arracher les hommes du péché, les préparant à accueillir ce Fils de l'homme royal qui domine, qui va venir bientôt. Le Fils de l'homme. Voilà tout ce qu'il y a derrière, en fait, cette expression. Alors j'espère que, avec ces quelques instants, nous avons réfléchi à ce qu'il y a derrière cette expression, eh bien nous saurons mieux comprendre la réaction des disciples et l'enseignement du maître dans sa parole. Alors plongeons dans le texte du jour, nous aurons trois parties, trois temps. Nous verrons en premier lieu le Fils de l'homme qui sait ce qui l'attend. Il sait ce qui l'attend. Ensuite nous verrons que Jacques et Jean nous permettront de méditer sur une tentative d'utiliser le Fils de l'homme pour son avantage. Et nous terminerons par un des textes les plus fondamentaux de la Bible, où le Fils de l'homme indique la raison de sa venue. Voilà donc les trois éléments que nous allons voir ensemble maintenant. Donc le premier élément, le Fils de l'homme sait ce qui l'attend. Je vous invite à reprendre Marc au chapitre 10, nous lirons les versets 32 à 34 pour les avoir bien en tête. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés. Et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait leur lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. » Et trois jours après, il ressuscitera. Jusqu'ici. Jésus est devant. Il sait ce qui l'attend et il est venu pour cela. L'angoisse et la crainte de ceux qui suivent Jésus. Je me suis demandé pourquoi ils ont peur en fait ces gens. C'est quoi leur angoisse, leur crainte ici? Eh bien, ce n'est sûrement pas la crainte de la mort, mais plutôt l'anxiété fébrile de voir comment le Messie prendra le pouvoir. Parce qu'en fait, jusque-là, il n'a pas vraiment donné de stratégie militaire pour faire cela. Donc en fait, c'est un peu angoissant. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà une angoisse. Jésus était sûrement dans une autre angoisse. Or, c'est vrai que généralement, quand plusieurs personnes ressentent la même peur dans un contexte commun, il n'y a pas besoin de parler. On se comprend. Mais Jésus est conscient que son angoisse est différente de celle de ses disciples. Il va donc leur parler et il va leur donner 8 éléments précis qui se réaliseront afin que ses disciples puissent les reconnaître. Alors, ils comprendront qu'ils contrôlent toute la situation. Ils comprendront mieux son angoisse qui arrivera à son paroxysme. Oh là, paroxysme. Excuse-moi, Néhémie, c'est pas un mot facile. Arriver à son paroxysme, ça veut dire quand c'est le plus fort, quand c'est le plus intense. Voilà. Quand la souffrance de Jésus arrivera à son paroxysme au plus fort, lors de sa prière à Gethsémané, ils pourront mieux comprendre pourquoi. Parce que Jésus leur a expliqué ce qui va arriver. Lorsqu'il demandera à son Père d'éloigner la coupe qu'il est appelé à boire. Voilà donc les 8 éléments que Jésus leur a donnés. Je vais vous les donner les 8 avec leur accomplissement. Et vous pourrez noter, si vous le voulez, sur vos feuilles, chaque fois la référence de l'accomplissement. Premièrement, il sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Marc 14, 42 à 43 nous dit ceci. Jésus est dehors la nuit avec ses disciples et il dit « Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Aussitôt qu'il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Il sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Deuxièmement, ils le condamneront à mort. Marc 14, 61-64. Marc 14, 61-64. Jésus garda le silence, ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble ?» Tous le condamnèrent comme passible de mort. Ils le condamneront à mort. Troisièmement, ils le livreront aux païens. Marc 15, verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Ils le livrèrent aux païens. Quatrièmement, ils se moqueront de lui. Marc 15, 17 à 20. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissait les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils se moqueront de lui. Cinquièmement, ils cracheront sur lui. Marc 14, 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, lui disant « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Ils lui cracheront dessus. Sixièmement, ils le flagelleront. Marc 15, 15. Pilate voulut satisfaire la foule et le relâcha Barnabas, et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Ils le flagelleront. Septième élément, ils le feront mourir. Marc 15, 27 à 28. Marc 15, 27 à 28. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ils le feront mourir. Et huitième élément, trois jours après, il ressuscitera. C'est Marc 16, verset 6. Un ange parle aux femmes qui sont venues au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où vous l'avez déposé. » Trois jours après, il ressuscitera. Tout cela est arrivé. C'est historique. Ce n'est pas une histoire inventée. Et les disciples ont pu comprendre par la suite que le Fils de l'homme avait tout pouvoir, même sur le péché et la mort. Mais c'est vrai qu'au moment où Jésus dit cela, dans ce journal qui nous est rapporté par Pierre, écrit par Marc, les disciples en fait ici ne comprennent rien. C'est vrai. Mais bon, imaginez Hugo. Non, vous ne le connaissez pas, mais c'est Hugo. Il vivait en l'an 1000. Ça va ? Ça fait assez longtemps. Et un génie lui explique un jour que des gens vont pouvoir s'entendre parler sans pouvoir se voir. Ils ne se verront pas, mais ils s'entendront. Il y en a même qui seront dans le château, il y en a qui seront au fond de la vallée dans l'autre pays, et ils pourront s'entendre, se parler. Waouh ! Enfin, il comprend rien. Mais vous connaissez les téléphones portables. Ce génie lui explique également qu'un jour il sera possible de voir une personne qui parle ou fait des acrobaties à des milliers de places en même temps. Vous connaissez la télévision. Ce génie lui dit que le silicium sera la matière utilisée pour transmettre toutes ces informations dans de très petites boîtes. C'est ce qu'on appelle les microprocesseurs. Oh Hugo, il n'y comprend rien. Mais les détails de ce génie indiquent qu'il sait exactement ce qui va arriver. Et si Hugo vivait aujourd'hui, il aurait une confiance absolue en ce génie. Tout ce que Jésus a annoncé est arrivé exactement. Tout ce que Jésus a annoncé est arrivé exactement. Alors maintenant j'ai une question. Avez-vous une confiance absolue en celui qui n'est pas un génie, mais qui est le Fils de Dieu ? Avez-vous une confiance absolue en celui qui n'est pas un génie, mais qui est le Fils de Dieu ? Avons-nous une confiance absolue en Jésus-Christ ? Jacques et Jean ont vu Jésus faire des miracles. Oh, ils avaient confiance en Jésus, hein ? Ils sont convaincus que c'est le Messie. C'est très bien, c'est une bonne étape. Mais que vont-ils faire de cette foi ? C'est mon deuxième point, que j'intitule « Une tentative d'utiliser le Fils de l'homme ». Relisez avec moi les versets 35 à 41 de Marc 10. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur répondit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? » « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe ?» et que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Ils lui répondirent, « Nous le pouvons !» Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à celui pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. On s'arrête là. Il y aura la suite, mais on s'arrête là pour l'instant. Jacques et Jean ont trouvé le filon. Ils sont certains d'avoir trouvé celui qui les délivrera de l'oppresseur, de cet oppresseur romain terrible. Et comme ils s'approchent de Jérusalem, le lieu où le Messie se manifestera selon les prophéties, ils se disent que c'est le bon moment pour assurer leur place lorsque Jésus manifestera sa gloire. C'est le bon. Matthieu, dans son rapport sur la vie de Jésus, nous dit d'ailleurs que Salomé, la mère de Jacques et Jean, qui est vraisemblablement la sœur de Marie, donc la tante de Jésus, est aussi avec ses fils lorsqu'ils font cette demande. Et Pierre se souvient que Jacques et Jean ont commencé par demander en fait un chèque en blanc à Jésus. Parce qu'on commence à demander un chèque. Enfin, c'est quoi un chèque en blanc? Le petit Timothée vous demande, qu'est-ce qu'un chèque en blanc? Un chèque en blanc, c'est en fait, on demande, enfin, on dit à l'autre, tout ce que je vais te demander, il faut que tu me le donnes. C'est comme si on mettait un papier tout blanc, tu signes, puis après moi, je peux écrire tout ce que tu dois me donner. C'est ça un chèque en blanc, si jamais les enfants. Donc Pierre se souvient que Jacques et Jean ont commencé par demander un chèque en blanc à Jésus. « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » N'est-ce pas ce qui motive la plupart de nos prières ?« Seigneur, j'ai besoin, merci d'y répondre !» Mais alors pourquoi Jacques et Jean l'appellent maître ? Pourquoi s'appuie-t-il sur l'idée qu'il est le Messie ? S'il est vraiment le Seigneur et le Roi, c'est lui qui peut demander à chacun blanc, pas l'inverse. Jacques et Jean demandent ici, en fait, à Jésus de se mettre à leur service. Ils veulent utiliser la puissance et le pouvoir de Jésus pour leur propre gloire et selon leur vision du royaume qu'il doit établir. Jacques et Jean demandent ici, en fait, à Jésus de se mettre à leur service. Ils veulent utiliser la puissance et le pouvoir de Jésus pour leur propre gloire, selon leur vision du royaume qu'il doit établir. Mais attention, ne critiquons pas trop vite Jacques et Jean. D'ailleurs, les 10 autres disciples ont exactement la même envie que Jacques et Jean. Le verset 41 nous dit que les disciples s'indignent contre Jacques et Jean. S'indigner, se dire qu'ils sont fâchés contre Jacques et Jean. Mais attention, ils sont pas fâchés contre Jacques et Jean parce qu'ils ont fait quelque chose contre Jésus. Mais non, c'est parce qu'ils ont osé demander les places que eux voulaient avoir. Franchement, quel toupet, on dirait. D'ailleurs, on voit dans l'histoire qu'on a déjà vue ensemble jusqu'ici de Jésus que les disciples se battent pour savoir qui est le plus grand. Mais pourquoi ils veulent savoir qui est le plus grand ? Parce que c'est celui qui aura la place à côté de Jésus, qui aura un pouvoir juste en dessous du pouvoir du Messie. Alors Jésus répond à Jacques et André. Vous ne comprenez pas de quel royaume il est question. Vous ne comprenez pas de quel royaume il est question. De quelle guerre dans laquelle je suis engagé. Du combat final qui est devant moi. Vous ne vous rendez pas compte. La coupe de la colère de Dieu, une coupe de souffrance infinie supportée à la place des pécheurs repentants, une coupe d'amertume, d'abandon. Le baptême dont Jésus parle pour lui est sa mort. Comme il indique également dans Luc 12, il dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé, combien je suis pressé qu'il soit accompli. » Les psaumes 88 et Jonas 2 nous permettent de comprendre cette notion de vague, de flot qui submerge, qui immerge. La colère de Dieu qui immerge, qui comme un baptême quelque part. Jésus, en fait, est en train de leur dire, de leur parler de son cœur, du combat qui se passe dans son cœur. Et Jacques et Jean en face, complètement dans leur idée du règne du Fils de l'homme qui reçoit la domination, ne cherchent pas à comprendre ce que Jésus leur dit. Ils sont prêts à se battre et ils répondent « Mais pas de souci, on fera tout ce qu'il faut pour y être, pour avoir ces places d'honneur. » Vous savez, le péché de l'orgueil qui cherche une place enlève toute compassion et recherche de compréhension de l'autre. Mais Jésus ici, dans sa bienveillance et sa compassion, ne commence pas à faire beaucoup de théologie. Il ne les reprend pas sur leur manque de sensibilité. Il leur dit qu'ils boiront une coupe et vivront un baptême à sa suite. Jacques et Jean ne boiront pas la coupe de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas mourir à la place de quelqu'un. Ils ne vivront pas le salut pour les autres. Mais c'est vrai qu'ils vivront des souffrances parce qu'ils resteront fidèles à Jésus-Christ. Jacques sera d'ailleurs le premier que Hérode mettra à mort après la résurrection. Jean sera exilé et mourra loin de tout. Mais c'est intéressant de voir ici que Jésus ne corrige pas leurs fausses croyances sur leur capacité ou leur manière de voir le royaume. Par contre, il veut qu'ils se soumettent complètement à Dieu. Pour ce qui est de ses places, en fait, c'est pas votre affaire. Vous devez vous soumettre à Dieu. Hein, Jésus ne corrige pas leurs fausses croyances sur les capacités, sur leur manière de voir le royaume. Par contre, il veut qu'ils se soumettent complètement à Dieu, qu'ils soient focalisés sur sa volonté et non sur leur désir de gloire. C'est ça l'élément fondamental ici. Quand ils seront plus focalisés sur leur désir de gloire, mais sur la volonté de Dieu, ils vont comprendre tout le reste. Et juste par rapport à la gloire, Jésus, il est déjà dans la gloire. Et nous sommes assurés de partager la gloire de Jésus dans l'éternité. Donc en fait, il n'y a pas besoin de se battre dans notre cours de pèlerinage ici-bas pour avoir une gloire éphémère. Il n'y a pas besoin de se battre pour cela. Il n'y a pas besoin de nous focaliser sur une gloire éphémère ici-bas. Ne la cherchons pas. Parfois, elle peut arriver, mais ça, c'est dans la main de Dieu. On doit se focaliser sur la volonté de Dieu et sur Dieu. Parce que chercher la gloire ici-bas est toujours lié à l'orgueil et au mépris des autres. Et Jacques et Jean en sont malheureusement un exemple très clair. Mais Jésus sait que lorsque ses disciples sont, disons, mal focalisés, il faut les focaliser ailleurs. Par exemple, lorsqu'un petit enfant est focalisé sur le chocolat qu'il ne doit pas manger. À ce moment-là, je ne dis pas qu'il ne doit jamais manger, mais à ce moment-là, il ne doit pas manger ce chocolat. Alors le parent qui prend soin et qui aime comme Jésus l'a fait avec ses disciples, ne va pas lui faire une théorie à cet enfant en lui disant que c'est néfaste de se focaliser sur ce chocolat, lui parler de tous les chocolats qui existent dans le monde, qu'il pourrait manger, mais qu'il ne doit pas manger à ce moment-là. Non! Il détourne son attention sur ce qui est juste et bon. Jésus devant Jacques et Jean qui pensent aux places d'honneur, il leur parle de la coupe et de baptême, comme il voit qu'ils n'arrivent pas encore à se défocaliser de leur propre gloire, eh bien il leur dit simplement, ça, c'est pas moi qui vous le donnez, il faut vous focaliser sur Dieu. Il n'y a pas à se préoccuper des places d'honneur. C'est la fidélité aux enseignements qui doit être l'objet de notre focalisation. Donc sur quoi sommes-nous focalisés? C'est la question qui nous reste. Sur quoi sommes-nous focalisés? Est-ce que c'est sur Jésus-Christ en désirant que nous vivions de manière à suivre son exemple, à suivre son enseignement? Sur quoi sommes-nous focalisés? Sur ce que Jésus désire que nous vivions? Ou sur ce que nous aimerions recevoir. Mais qu'est-ce que Jésus désire que nous vivions? Eh bien, c'est notre dernier point qui en parle. Troisième point, le Fils de l'homme indique la raison de sa venue. En verset 42, là on voit ce qui s'est passé avec Jacques et Jean, les dix commencent à s'énerver, ils se disent mais pourquoi ils lui demandent ça? Et Jésus, voilà ce qu'il fait. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus veut que tous ses disciples apprennent de cette situation, donc nous aussi, mais il fait venir les autres et leur dit « venez ». Et il leur dit trois choses assez clairement ici. Hein. Il leur fait constater ce qui se passe dans le monde. Ensuite, il leur rappelle la façon de vivre dans son royaume. Et troisièmement, il leur donne la motivation sur laquelle les disciples doivent se fonder. Alors c'est vrai que le constat d'abus de pouvoir pour être au sommet n'est pas quelque chose de nouveau et n'a malheureusement pas disparu. Je ne vais pas maintenant prendre du temps pour faire une liste de toutes les situations où il y a des abus d'autorité, etc. Je crois qu'il n'y en a pas besoin. Mais je nous encourage, par contre, à examiner nos motivations et à tout mettre en place pour ne pas arriver dans de la tyrannie ou de l'abus de pouvoir dans notre circonstance, à chacun. Donc de réfléchir, de dire, est-ce que je vis comme Jésus le décrit au verset 42? Si on a des éléments qui nous permettent de le voir, ou si des personnes nous le disent, une alarme orange doit s'allumer et nous devons nous arrêter et nous examiner. Deuxième élément, celui qui veut être grand sera le serviteur. Et celui qui dit, mais moi je veux pas être grand, hein, parce que ça j'ai déjà entendu, hein, je dis, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur. Puis on me répond, ben, moi je veux pas être grand. Je dis, vous savez ce que je réponds? Alors assume, sois le serviteur. Vous voyez? Les deux directions nous poussent vers le serviteur. Celui qui dit « je veux être grand », qu'il soit le serviteur. Que celui qui dit « que je ne veux pas être grand », eh bien qu'il le vive en étant le serviteur. Être le premier, c'est donner. Voilà la façon de vivre dans le royaume de Jésus. Et nous avons ici un texte fondamental du Nouveau Testament qui va nous donner la base, le fondement, la motivation de toutes nos actions. C'est le verset 45. Le verset 45 est un verset clé du livre de Marc, en fait. Si on étudie ce verset-là, on comprend une grande partie de l'évangile de Marc. Qui dit donc, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme, qui est promis à la domination selon Daniel 7, est venu sur terre pour vaincre le péché et la mort, en faisant l'inverse de ce que ses ennemis le poussaient à vivre. Ses ennemis, en fait, le poussaient à être servi et à préserver sa vie à tout prix. Jésus fait exactement l'inverse. Il sert et il donne sa vie. Jésus dit quatre choses ici, très fortes. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Deuxièmement, non pour être servi. Non pour être servi. Troisièmement, mais pour servir. Et quatrièmement, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc le Fils de l'homme est venu. C'est le moment de l'histoire où celui qui était annoncé dans Daniel est là. Il n'y a pas d'autre personne à attendre. Il est le Messie. Le Fils de l'homme est venu. Jésus l'a dit clairement. Mais deuxième élément, non pour être servi. Cette venue n'est pas pour lui. Il vient pas, voilà, je viens pour moi. Non. Cette première venue, son incarnation, ouf, voilà nouveau un mot pour les enfants. Incarnation. Ça veut dire quoi? Incarnation, en fait, c'est le fait de devenir homme. Voilà. Dieu qui n'est pas homme, il devient homme, c'est pour ça qu'on appelle ça l'incarnation. Je vais parler dans le détail du latin, vous me pardonnerez pour cela. Donc, dans son incarnation, cette venue homme, en fait, il ne l'a pas vécu pour lui. Il ne l'a pas non plus vécu pour que des personnes se mettent à son service dans sa mission de rédemption, dans le salut qu'il est venu accomplir. S'il a choisi des disciples, je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu vu dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il ne choisit pas des disciples pour qu'ils soient à son service, hein. Pour qu'ils aillent lui chercher de l'eau, pour qu'ils aillent lui faire un peu d'ombre quand il a trop de soleil. Vous voyez ça? Peut-être qu'ils l'ont fait. C'est pas interdit d'ailleurs, hein. Mais Jésus n'a pas choisi des disciples pour qu'ils le servent. Non. Il a choisi des disciples pour qu'ils soient des témoins et qu'ils transmettent son enseignement. Pas pour être servi. En fait, c'est un modèle pour nous encore aujourd'hui. Si Dieu nous place dans une équipe, même avec un rôle de leader, ce n'est pas pour être servi, c'est pour servir ensemble. Et là, Jésus ici le souligne très fort dans ce qu'il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Mais il continue évidemment, mais pour servir. Jésus n'est pas seulement venu pour mourir, il est venu pour servir. Et je soulignerai quatre raisons de pourquoi il est venu pour servir. La première, c'est que sa vie parfaite fait partie de son salut. Ainsi, il ne doit pas payer pour lui. S'il n'était pas parfait, s'il n'était pas venu pour servir, mais juste pour profiter et glisser dans le péché, parce que souvent c'est des pentes qui vont glisser vers le péché, il aurait dû payer pour lui. Il n'aurait pas pu nous sauver. Donc sa vie parfaite fait partie du salut. Deuxièmement, sa vie parfaite fait partie de sa rédemption. En fait, nous recevons sa vie. Dieu nous voit saints par la vie de Jésus-Christ. Par sa vie, de service. Troisièmement, son service a été vécu pour le bien de ses disciples, qu'il a servi comme guide et enseignant, afin qu'il puisse transmettre plus loin. Il y avait aussi un but à ce service. C'est que ses disciples aient un guide, un enseignant. Et quatrièmement, son service, c'est bien sûr notre modèle, rempli de compassion, aimant la vérité, n'hésitant pas à s'abaisser, certain de son identité. Jésus n'a jamais douté de son identité, mais il a su s'abaisser et vivre selon la volonté de son Père Céleste. Un service fondé, accompagné par l'amour parfait et total. En fait, le service de Jésus est le fondement et la motivation de notre service. C'est parce qu'il a servi que je vais aussi servir dans son attitude. Et il l'a fait d'une manière si totale qu'il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus connaît parfaitement sa mission. Il sait que le Fils de l'homme annoncé dans Daniel 7 est celui qui venait sauver le monde et recevoir une autorité, un gouvernement éternel. Cette double signification de Fils de l'homme est à la base de sa capacité de donner sa vie en rançon. Et la double signification était qu'il était fait homme, et en tant qu'homme, il peut nous représenter. Et il a toute domination. Et en ayant toute domination, il a la capacité de payer la rançon. Jésus va donner sa vie comme personne d'autre ne pourrait le faire, car il la donne en substitution, c'est-à-dire à la place de ceux qui mettent leur confiance en lui. Personne ne peut se substituer, parce que personne d'autre n'a reçu la domination et vécu une vie de service parfait, sainte, sans aucun péché, comme Jésus-Christ. La vie de Jésus donnée est la plus précieuse qui existe. Sommes-nous conscients que la vie de Jésus est la vie la plus précieuse qui existe? Est-ce qu'on a déjà réalisé qu'on n'a pas la possibilité de se présenter devant Dieu en lui disant « Hello, j'ai une vie parfaite, acceptez-moi pour mes mérites, car je n'ai absolument rien que tu pourrais me reprocher selon tes commandements. » Oh non, personne ne peut dire cela. La seule chose que je peux dire avec tous ceux qui comprennent leur état de pécheur, saisi par le Saint-Esprit pour me tourner vers Jésus-Christ, je me repens et je peux dire qu'une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, je peux le dire. Mon Rédempteur Jésus-Christ, il a donné sa vie en rançon. Il a payé ma dette. Il a vécu une vie parfaite à ma place. Et il a vécu une vie parfaite pour mon exemple. Et il se lèvera, attestera m'avoir racheté, et personne d'autre ne se lèvera après lui pour m'accuser ou me condamner. Voilà pourquoi il est dit qu'il se lèvera le dernier. Personne d'autre ne se lèvera après lui. Donc il a donné sa vie en rançon, il a payé pour ma dette, il a vécu une vie parfaite à ma place, et pour mon exemple, il se lèvera, attestera m'avoir racheté, personne d'autre ne se lèvera après lui pour m'accuser ou me condamner. Moi j'aime bien Jean-Baptiste, vous aimez Jean-Baptiste? Un peu particulier quand même, mais... Mais il a dit une chose qui est quand même assez incroyable, il a dit une phrase qui est d'une profondeur qui est juste « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et qu'il... C'est Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, ayant compris la mission de Jésus, je peux dire comme Jean-Baptiste, je veux qu'il soit très grand dans ma vie et que je sois très petit. Que mes dettes diminuent complètement et que sa rançon prenne toute la place. Que je m'éloigne de tout péché pour être totalement rempli de son service. Que je lui fasse complètement confiance et que je me nourrisse de sa grâce. Et ainsi nous pourrons saisir et vivre ce que Jésus a dit dans ce texte de Marc 10, 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et s'il croit et je diminue dans ma vie, ceci sera une réalité dans ma vie. Qu'allons-nous retenir aujourd'hui de tout ce que le Fils de l'homme nous a enseigné? Eh bien, je nous rappelle que le Fils de l'homme sait ce qu'il attend. Il a annoncé sa mort, mais aussi sa résurrection. Tout s'est réalisé. Nous pouvons lui faire totalement confiance en tout, dans tous les domaines. Le Fils de l'homme n'est pas là pour réaliser nos ambitions. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Focalisons-nous plutôt sur les ambitions de Dieu à notre égard. Et le Fils de l'homme, troisièmement, est venu pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Fais-tu partie de ces beaucoup? Peux-tu dire, il a donné sa vie en rançon pour moi? Ou comme Job le disait, je sais que mon Rédempteur est vivant? Que Dieu nous fasse à tous la grâce de dire, Jésus est venu pour servir et je veux servir à sa suite. Jésus est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup, il l'a fait pour moi et c'est ma motivation à me donner pour lui. Nous allons prier. Seigneur, je me rends compte que trop souvent, je ne suis pas conscient de ma dette envers toi. Trop souvent, j'ai l'auto-justification qui se met en marche et qui m'indique que, oui, je fais des fautes, mais c'est pas pire que d'autres. Et je peux que te demander pardon, Père. Parce qu'ainsi, je ne me rends pas compte, en fait, de la coupe et du baptême que Jésus est venu boire, de ce pourquoi il est venu payer. Seigneur, je te demande pardon parce que trop souvent, je ressemble à Jacques et Jean, cherchant à être tranquille, avoir des bonnes places. Non, Seigneur, je veux te servir et te suivre comme tu le veux, à la place où tu veux, en étant totalement confiant que tout est bon parce que c'est toi qui le veux ainsi. J'aimerais, Seigneur, te dire merci parce que tu me permets, j'aimerais te prier vraiment que tu permettes à chacun ici de dire vraiment. Oui, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour moi. Et je suis certain que si ma vie s'arrête aujourd'hui, je peux me trouver devant lui et lui dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Éternel, j'aimerais te prier vraiment que chacun ici puisse être saisi par ta grâce et qu'ainsi dans nos vies de tous les jours, nous cherchions à asservir d'une manière qui manifeste ton évangile dans nos vies. Nous avons besoin de toi et nous te remercions parce que tu es avec nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.